France Culture.
Bonjour à tous. 3 otages israéliens libérés ce matin contre 369 détenus palestiniens et des images qui interrogent. Nous serons à Jérusalem en début de ce journal. Session de rattrapage pour le Premier ministre François Bayrou est à Pau ce matin pour rencontrer le collectif des victimes du collège-lycée Notre-Dame de Bétharram. La gauche l'accuse d'avoir menti sur sa connaissance des agressions et viols commis au sein de l'établissement dans les années 80. Et puis c'est aujourd'hui la journée internationale des cancers pédiatrique. Nous en parlerons avec Virginie Gandemer, présidente de la Société française de lutte contre les cancers de l'enfant et de l'adolescent. 3 otages israéliens binationaux ont été libérés ce matin, présentés par le Hamas sur une scène à Khan Younes. En échange, 369 détenus palestiniens sont désormais libres. 4 ont dû être hospitalisés, selon le Croissant Rouge. C'est la 6e vague d'échanges, alors que le cessez-le-feu est particulièrement fragile. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Servane.
Des images qui troublent ce matin, ce sont ces photos publiées par l'autorité pénitentiaire israélienne.
Oui, avec ces dizaines d'anciens détenus alignés dans la cour d'une prison, ils portent tous un sweatshirt blanc avec sur le cœur l'étoile de David. Au même niveau, à droite, le logo en noir des services pénitentiaires israéliens. Et en dessous, cette phrase écrite en arabe « Nous n'oublierons pas et nous ne pardonnerons pas ». C'est la deuxième fois que les autorités de l'État hébreu utilisent des prisonniers palestiniens pour faire passer sous la contrainte des messages. La semaine dernière, le comité international de la Croix-Rouge avait appelé les belligérants à faire preuve de dignité lors des échanges. Il n'a visiblement pas été écouté. 369 détenus palestiniens sont libérés aujourd'hui, 333 retenus sans charges avérées et arrêtés après le 7 octobre à Gaza. Ce n'est évidemment pas le cas de tous. 36 d'entre eux ont été condamnés à des peines de prison à vie pour des crimes de sang.
Et un peu plus tôt ce matin, 3 otages ont donc été libérés. 6e vague d'échanges alors que le cessez-le-feu est plus fragile que jamais.
Oui, ces 3 otages sont restés près de 500 jours aux mains du Hamas et du djihad islamique palestinien. Sagi Dekel-Chen, Sacha Troufanov et Yair Horn sont donc libres. Les 3 hommes ont été exhibés sur une estrade installée à Khan Younes au sud de Gaza. Et ils étaient en apparente bonne forme, rien à voir en tout cas, avec les terrifiantes images des 3 otages relâchés la semaine dernière, la peau sur les os et le teint blafard. Les 3 hommes sont binationaux, américains, russes et argentins. Ils sont originaires du même kibboutz de Niroz et il reste encore 3 semaines avant la fin théorique de la première phase de la trêve. 6 otages vivants et 8 dépouilles doivent être rendus à Israël en échange de 500 à 700 détenus palestiniens.
Mais merci Thibault Lefebvre, vous êtes le correspondant de France Culture à Jérusalem. Plus de 25 personnes ont été arrêtées au Liban après l'attaque d'un convoi de la FINUL, la force de l'ONU au Liban. Hier, ce convoi a été incendié sur une route bloquée par des partisans du Hezbollah. 2 officiers ont été blessés depuis 2 jours. Des partisans de la milice chiite bloquent l'accès à l'aéroport de Beyrouth en signe de protestation après l'interdiction d'atterrissage de 2 avions iraniens. Conférence de Munich sur la sécurité, jour 2. Aujourd'hui, on entrait dans le vif du sujet. Quelle architecture de sécurité pour l'Europe et particulièrement pour l'Ukraine, avec 2 orateurs importants ce matin, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le chancelier allemand a d'abord, et dans une sorte de préambule, voulu répondre au vice-président américain J.D. Vance, lequel avait mis en doute hier les qualités démocratiques de des différents pays européens, leur reprochant de ne pas vouloir travailler avec les partis populistes ou d'extrême droite, Éric Bégala.
Oui, le chancelier Scholz a été presque émouvant sur ce chapitre ce matin, rappelant l'histoire de l'Allemagne, se référant au camp de concentration de Dachau, à 20 km de Munich, camp que le vice-président américain avait visité avant-hier, et le chancelier rappelait qu'en Allemagne, depuis la fin de la guerre, le leitmotiv des partis de gouvernement reste le même. Plus jamais ça, plus de fascisme en Allemagne, et c'est la raison pour laquelle il existe dans la démocratie allemande des pare-feux contre des partis d'extrême droite tels que l'Alternative für Deutschland, l'AFD. Mais le chancelier est aussi revenu et longuement sur les efforts de réarmement qu'il faudra consentir en Europe, notamment en Allemagne. Et pour ce faire, le chancelier propose d'investir massivement, non pas en puisant dans le budget fédéral, mais en empruntant. Et pour ce faire, Olaf Scholz propose que le prochain gouvernement, dont il compte bien faire partie, assouplisse franchement les règles qui jusqu'à présent corsettent le budget. La dette publique allemande, aujourd'hui, ne représente que 60% du produit intérieur brut, a remarqué le chancelier, contre 120% pour les États-Unis.
Et le président Zelensky, juste après le chancelier, lui aussi, revenu sur l'indispensable réarmement de l'Europe, Eric.
Oui, mais a précisé le chef de l'État ukrainien, il ne s'agit pas que de budget et de financement. Il faut dès maintenant que se constitue en Europe une véritable armée européenne. Une armée susceptible de faire face à un Vladimir Poutine qui menace toujours les pays du flanc Est de l'Union en se déployant notamment en Biélorussie, ostensiblement pour s'y entraîner. C'est exactement ce que la Russie avait fait avant d'attaquer l'Ukraine en 2022, a rappelé le président Zelensky, pour qui le désengagement américain en Europe est désormais une véritable possibilité. Volodymyr Zelensky a même proposé que si un tel retrait américain du sol européen devait se profiler, actuellement les États-Unis ont quelque 85 000 hommes déployés en Europe, l'armée ukrainienne pourrait elle-même se déployer en remplacement. Une armée ukrainienne aujourd'hui largement aguerrie et particulièrement contre la menace russe.
Merci Eric Bigala, vous êtes à Munich et vous étiez avec Johanna Abric. Il faut éviter à tout prix une escalade régionale en RDC, l'alerte du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors de l'ouverture du sommet de l'Union africaine. Hier, les combattants du M23 soutenus par le Rwanda sont entrés dans Bukavu, la capitale de la région du Sud Kivu. La chute de la ville est imminente. Le secrétaire général de l'ONU appelle au dialogue. L'Union européenne annonce elle examiner en urgence toutes les options afin d'y apporter une réponse. François Bayrou rencontre en ce moment le collectif de victimes du collège-lycée Notre-Dame de Bétarame pour tenter de faire retomber la polémique. La gauche affirme qu'il était au courant des violences et agressions qui se sont déroulées dans cet établissement des Pyrénées-Atlantiques, fréquenté par certains de ses enfants. Lui affirme le contraire. Des centaines de plaintes ont été déposées pour des faits qui remontent aux années 70, 80 et 90. Elia Bergel, vous êtes à Pau où la rencontre a lieu en ce moment.
François Bayrou essaye de faire retomber le scandale. Après une semaine de fébrilité, le chef du gouvernement tente de reprendre la main. François Bayrou rencontre donc ce midi 8 victimes à l'hôtel de ville de Pau. Elle qui demande plus de moyens pour l'enquête pénale. L'exécutif se met en ordre de bataille pour tenter d'éteindre l'incendie. Le ministère de l'Éducation nationale a ordonné au rectorat de Bordeaux de mener une inspection de Bétarame. Le gouvernement essaye de montrer qu'il prend le sujet au sérieux désormais après avoir accusé dans un premier temps la gauche d'instrumentaliser cette affaire.
François Bayrou a rencontré d'anciens élèves de l'association des victimes.
La première estocade a lieu mardi. Question du député LFI Paul Vanni à François Bayrou dans l'hémicycle. Que savait-il du scandale ? Rien. Jean-François Bayrou, dont plusieurs enfants sont pourtant allés à Bétarame. Les Verts et le PS entrent aussi dans la danse, demandent des explications. Polémique artificielle évacue à nouveau le Premier ministre. Alors que les révélations de presse qui se succèdent fragilisent ces démentis, les nuages s'amoncellent au-dessus de la tête de François Bayrou dans un moment déjà politiquement très compliqué, à quelques jours d'une motion de censure du PS.
Merci Elie Abergel. Une enquête judiciaire est en cours dans l'établissement Notre-Dame de Bétarame. Et puis c'est aujourd'hui la journée internationale du cancer de l'enfant. Chaque année, ce sont près de 2500 jeunes de moins de 18 ans qui sont touchés en France. Pour en parler, nous sommes avec le professeur Virginie Gandemer, pédiatre cancérologue et présidente de la Société française de lutte contre les cancers et les leucémies de l'enfant et de l'adolescent. Bonjour madame.
Bonjour, merci de m'accueillir dans votre journal.
Avec plaisir. Alors tout d'abord, quand on parle de cancer pédiatrique, de quoi parle-t-on ? De quelle maladie en particulier ?
Eh bien, on parle de dizaines de types de cancers différents qui sont de nature en fait très différente de celle de l'adulte. Les cancers de l'adulte sont plutôt, vous savez, les cancers qu'on appelle carcinomes, alors que les cancers pédiatriques sont des cancers qui se développent très rapidement et qui reproduisent en fait l'organe à l'état embryonnaire chez l'enfant. Donc en fait, ce sont des cancers qui ont la chance d'être très chimiosensibles pour la majorité d'entre eux, mais de se développer très très rapidement.
Donc c'est important de les prendre en charge rapidement aussi ?
Absolument, absolument. Ce sont des urgences relatives à chaque fois.
Je disais qu'on recensait en moyenne 2500 cas chaque année. Est-ce que c'est un chiffre qui évolue ?
Alors, Globalement, ce chiffre est relativement stable, même si les classifications des cancers se modifient sur les années et qu'il peut y avoir des variations, mais il n'y a pas du tout d'explosion des cas de cancers pédiatriques.
Oui, l'explosion des cas, c'est quelque chose qui est mis en avant, qui est souvent repris par des politiques. Vous critiquez, vous dénoncez cette explosion des cas, c'est pas quelque chose qui a lieu.
Alors oui, enfin, en tout cas, mon propos de professionnel de santé n'est pas d'être dans la critique ou la démagogie. Il n'y a pas d'augmentation fulgurante. Possiblement, on a un petit peu plus de cas de tumeurs cérébrales. Pour autant, ces discussions tournent autour de l'importance et la gravité des polluants de l'environnement, qui évidemment impactent les enfants comme les adultes. Ce que nous disons, nous professionnels et chercheurs, c'est que ces polluants ne sont pas actuellement mis en cause dans la survenue de cancers à l'âge pédiatrique. C'est pas pour ça qu'ils sont bons pour les enfants, bien évidemment, mais ce ne sont pas ceux-là qui sont responsables de la genèse des cancers pédiatriques.
Les cancers pédiatriques, est-ce que ce sont des maladies qu'on soigne bien aujourd'hui ?
Alors, oui, grâce essentiellement au progrès de la recherche clinique, parce qu'on utilise très majoritairement des vieux médicaments, c'est-à-dire des médicaments de chimiothérapie qui sont nés dans les années 70 ou 80, et grâce à cela, on arrive à guérir tout cancer confondu, 80% des enfants. Ce qui est évidemment insuffisant et qui nécessite pour les 20% restants de trouver des traitements innovants.
Et c'est vers ça que doit tendre la recherche aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, il faut trouver des traitements innovants qu'on puisse appliquer aux enfants. Et là, on a besoin de l'aide de tout, du gouvernement, de l'Europe, mais aussi des industriels qui doivent s'intéresser à cette population, puisque je vous rappelle que le nombre de cancers de l'enfant, c'est moins d'1% de l'ensemble de tous les cancers. Et donc, on veut guérir plus ces enfants, mais aussi on veut les guérir mieux pour diminuer les complications à long terme. Et on a besoin de ce suivi à long terme. Et si on peut les guérir tout de suite sans impacter les 80 ans qui leur resteront à vivre, on est évidemment preneur.
Ce suivi aujourd'hui, il est bien réalisé ?
Malheureusement, non. Les structures de soins ne sont pas du tout adaptées et mises en œuvre pour ce suivi à long terme, alors que c'est une demande extrêmement légitime de tous les patients, enfin anciens patients.
Merci beaucoup Virginie Gandemer. Je rappelle, vous êtes pédiatre cancérologue et présidente de la Société française de lutte contre les cancers et les leucémies de l'enfant et de l'adolescent. C'est un lieu aussi emblématique qu'inaccessible. La salle du congrès du château de Versailles ouvre exceptionnellement ses portes ce week-end, tout comme l'appartement du président du congrès. Cela fait partie des festivités des 150 ans de la République que le château commémore. Et Louise Roger a pu se rendre dans ces lieux emblématiques de la politique française.
Alors nous sommes dans la salle du congrès qui a été construite pour la Chambre des députés en 1875.
Frédéric Lacaille est conservateur au château de Versailles. Cette salle du congrès, à la moquette et au siège de velours rouge, il la connaît dans les moindres détails.
On voit le décor très inspiré du décor du Versailles de Louis XIV, avec la grande colonnade en partie haute qui rappelle les grands appartements du château, le grand Trianon, le soleil royal de Louis XIV au coin du balcon, du premier balcon. Ça c'est incroyable de penser qu'on a un symbole tellement monarchiste. Mais il faut pas oublier que cette salle, lorsqu'elle est construite en 75, est construite donc à un moment où on n'est pas certain encore totalement que la République va être le nouveau régime de la France. En fait, on n'est pas sûr du coup.
Il y a aussi le double F forgé sur les grilles d'aération pour évoquer seulement la France et non pas RF pour République française. Cette salle, grande de 600 mètres carrés, était prévue pour accueillir les séances de la Chambre des députés jusqu'en 1879, mais elle a ensuite servi aux réunions des deux chambres pour l'élection du président de la République, de Jules Grévy jusqu'à celle de René Coty en 1953. Depuis, Versailles n'a pas totalement disparu de la carte républicaine actuelle. La réunion des deux chambres se perpétue encore maintenant. Christophe Leribaud est le président du château de Versailles.
Soit pour les adresses du président de la République, qui ne peut pas parler au Luxembourg ou au Palais Bourbon, ou pour les amendements à la Constitution. Mon premier jour ici, c'était pour l'inscription dans la Constitution de la Ve République de l'IVG. Tout d'un coup, le château reprenait une âme républicaine.
Épreuve encore de ce récent événement sur les pupitres, les étiquettes avec les noms des députés et sénateurs présents l'année dernière sont encore là, comme une page de la politique française figée dans ce monument historique en attendant la prochaine.
La salle du Congrès ainsi que l'appartement du président du Congrès sont ouverts tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de septembre. La météo de ce samedi, de belles éclaircies dans une grande partie du pays avec un peu de grisaille dans un quart nord-est. Il fera au plus beau de la journée 4 à Belfort, 7 à Lyon, 12 à La Rochelle et Montpellier et 14 à Nice et Ajaccio.